Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je vais vous parler du budget fédéral dans deux instants, mais il y a un certain nombre de dossiers ce matin qui nous lèvent le cœur et qui montrent à quel point il y a des enfants qui sont abusés et partout à travers le monde. La presse titre à la une l'histoire de Gilles Provencher, un acteur communautaire qui produisait de la pornographie impliquant des enfants dans son sous-sol. Il a donc été arrêté, il est en procès actuellement. Et c'est l'enquêteuse Mélodie Leclerc du SPVM qui a témoigné. Et je la cite ce matin parce que vous allez comprendre, derrière l'image de ce beau vieux monsieur de 77 ans, porté à la défense des étrangers, quelqu'un d'impliqué dans sa communauté, se cachait un pédophile fou furieux. Elle dit « Trouver de nouvelles victimes, c'était son hygiène de vie ». Alors, 13 chefs d'accusation. Et voici ce qu'il faisait. Il recrutait au Mali des intermédiaires qui, à leur tour, allaient acheter des petites filles et, lui, à distance, regardait les abus sexuels sur ces petites filles-là et, évidemment, enregistrait les abus, donc production de matériel de pornographie juvénile, et il gardait ça pour lui. C'était pas quelqu'un qui en faisait la distribution, c'était sa collection personnelle d'abus sur des enfants. Elle dit également qu'il regardait ces agressions en direct et que c'est un phénomène qui est en pleine croissance. Donc, des gens là qui vont observer des enfants se faire violer par d'autres. Dans beaucoup de cas, ce sont des gens qui payent, mais je sais aussi qu'il y a parfois carrément une forme d'échange qui peut même exister au sein d'un club assez fermé. Et ça, c'est le premier cas ce matin qui m'a rappelé celui d'un psycho-éducateur qui a acheté une petite fille de 8 ans en Afrique pour en faire son esclave sexuelle. Le gars s'appelle Sylvain Villemer et ce sont les policiers qui sont tombés par hasard sur la petite. Parce que quand on a enquêté le dossier, c'est un gars qui consommait de la pornographie juvénile. Puis quand les policières et les policiers sont débarqués chez lui, ils ont trouvé la petite de 8 ans qui venait d'Afrique. Puis on s'est demandé qu'est-ce qu'elle faisait là. Ben, il l'avait carrément acheté, amené ici. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il a pu continuer à mener sa vie avec cet enfant-là sans que personne lui pose de questions. Et j'ajoute aussi un jugement qui a été rendu plus tôt cette semaine par le juge Serge Simon. Et ça concerne une affaire d'inceste. En résumé, c'est un gars dans la vingtaine qui a violé sa sœur pendant une bonne période de temps. Donc, premier dévoilement, la petite a 12 ans, raconte à sa mère qu'elle est agressée par le frère. La mère ne veut rien savoir, ne veut rien entendre, et lui dit simplement « Réglez ça entre vous autres ». Donc, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Le gars se met en couple avec une femme et viole la petite de sa conjointe. Finalement, la première victime porte plainte et le gars a été condamné à la prison pour ça. Mais ce qui est frappant dans ce cas, et qui est assez classique, je dirais, de l'omerta familiale, des gens qui détournent le regard, qui ne veulent rien savoir, qui veulent éviter le scandale et qui font que cette jeune fille-là, qui a eu un paquet de problèmes par la suite, c'est documenté dans le jugement, une vie là de merde parce qu'elle a été d'une part agressée, mais aussi beaucoup parce qu'elle n'a pas eu le soutien de sa famille dans cette histoire-là. Bon, parlons du budget. D'abord, déficit à perte de vue. Les milliards pleuvent sur le Canada, 53 milliards de nouvelles dépenses. Puis on peut dire que, et on a vu depuis les derniers jours, là, l'opération d'effeuillage, de présentation de tous les programmes. Ottawa met de l'argent partout, dans des champs de compétences des provinces. Et je le rappelle, il n'y a pas que le Québec qui proteste dans ce dossier-là. Et donc, on est dans le logement. Et on a voulu en faire un budget pour les jeunes, en disant on va augmenter les bourses d'études, on va vous permettre un accès plus facile vers le logement, on va construire avec les villes beaucoup de logements, on va payer pour des infrastructures, on va convertir des bâtiments fédéraux pour en faire des logements. Et pour se payer un peu, ben on prévoit augmenter les taxes. Donc évidemment, quand on parle de taxes sur le gain en capital, on se dit tout le temps, ben là, on a affaire à des milliardaires, des millionnaires. C'est vrai que si vous êtes, par exemple, propriétaire d'un immeuble à revenus, ben ça va vous coûter plus cher au moment de la revente. Si vous avez un chalet, ça risque aussi de vous coûter plus cher. Et l'autre nouvelle, c'est que c'est une mesure fédérale, mais déjà le premier ministre Legault a indiqué que, et ça en termes de politique là, sur le revenu, les paliers de gouvernement s'entendent assez bien. Donc, Ottawa l'annonce et Québec va suivre assez rapidement. Des dépenses militaires, et on le sait, on l'a vu, programme, par exemple, d'assurance médicaments, on va payer pour la contraception, on va payer pour l'insuline pour les patients qui sont diabétiques. Le fardeau de la dette continue d'augmenter. Donc, quand vous regardez tout ça, c'est un budget. C'est évident que le NPD va soutenir le gouvernement là-dessus, là, que le gouvernement tombera pas. Mais c'est un budget politique pour essayer d'amener les libéraux à retrouver une meilleure position dans les sondages. Hier, je regardais la dernière mise à jour de Québec 125 sur les élections fédérales. Puis la question était la suivante. Est-ce que les libéraux feraient mieux si Justin Trudeau n'était plus le chef? Autrement dit, si M. Trudeau démissionne, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont décider de voter pour le Parti libéral? La réponse, qu'il reste ou qu'il parte, les libéraux sont en difficulté. Ça peut évidemment changer, c'est un sondage. Mais les libéraux sont vraiment, vraiment en détresse dans les sondages et ils espèrent être capables de pouvoir, disons, remonter avec ce budget qui a été présenté. Il y a aussi des prestations qui seront versées pour 600 000 Canadiens, prestations pour personnes handicapées. Et Pierre-Yves sera avec nous tantôt. On va faire un long segment sur le budget du gouvernement. Hier, la ministre Geneviève Guilbeault a annoncé la construction du pont de l'île d'Orléans, le nouveau pont de l'île d'Orléans, qui va coûter 2,7 milliards. Je n'y comprends rien. Il y a quelque chose là, qui n'a pas d'allure. Un pont entre donc l'île d'Orléans puis Québec. Là. Et il y a plusieurs années, il y avait eu une projection de fait, mettons que ça fait 10-12 ans, là, de 400 millions. Mettons que ça coûte plus cher. Mais 2,7 milliards pour un pont de 2 kilomètres. Je veux bien les pieux, là, puis qu'il faut faire une structure. Mais une seule voie de circulation automobile est prévue dans chaque direction. On parle pas d'un trois voies, là. Et sérieusement, je suis convaincu qu'on se fait avoir, là. Je suis convaincu que le gouvernement est en train de s'en faire passer une vite. Et on sait, là, qu'il faut à tout prix faire plaisir aux gens de Québec. On le sait que le pont est en décrépitude. On le sait que les gouvernements précédents ont négligé de faire les travaux. Puis là, Mme Guilbeault nous dit, ben, j'ai pas le choix. C'est peut-être vrai qu'on n'a pas le choix, mais 2,7 milliards pour un pont de 2 kilomètres, une voie de chaque bord, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Ça tient pas la route, mais ça a l'air que c'est comme ça. Puis on n'est pas dans le dossier du troisième lien. On attend encore, peut-être en mois de juin, les recommandations de la Caisse de dépôt et de placement infra du Québec. Puisqu'on parle de politique, on a appris hier en fin de journée que le député de la CAQ, Éric Lefebvre, qui est le whip en chef du gouvernement, a remis sa démission et sera candidat lors des prochaines élections fédérales pour le Parti conservateur. Là, M. Lefebvre donne pas d'entrevue, mais il l'a annoncé lui-même. Je connais pas ses motivations officielles. T'sais, on va nous parler du beau défi qu'il a à relever, etc. Mais mettons qu'on se penche sur les faits troublants, là. C'est un comté que la CAQ risque de perdre. Il est whip du gouvernement, puis il regarde l'autre bord de la clôture, puis il voit Poilievre qui est en orbite. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Il dit à François Legault, ça a été bien agréable, mais c'est l'autre bord que l'avenir se trouve, et pas avec la CAQ quand on regarde les sondages, vous savez, puis on va en reparler avec Jonathan, que la région de Québec pourrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de caquistes à Québec. Puis quand vous allez dans ces territoires caquistes, ben, c'est pas impossible que le Parti québécois, au contraire, fasse des gains importants. Fait que là, M. Lefebvre a pris son crayon, puis il a fait la colonne des pour puis des contre, puis c'est... Tu sais, il a dit, ben, c'est aussi bien de m'en aller. Alors, il va siéger comme député indépendant pour l'instant. Il y a eu, appelons ça, cette mise en scène en commission parlementaire entre le libéral André Fortin et le ministre des Finances, de la Santé, pardon, Christian Dubé, pour démontrer que le fameux guichet pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, ça marche pas. Alors, il a fait ça en ligne. Son équipe a également fait des téléphones. Et la conclusion, c'est que ça ne marche pas. Aucun rendez-vous correspondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Et ce que le député libéral a vécu, les citoyens vivent ça au quotidien. On a un collègue de travail ici dans l'équipe, ça fait trois ans, qu'il cherche à obtenir un rendez-vous. C'est pas qu'il y a un problème, mais on lui dit, vous avez pas un cas urgent, alors qu'est-ce que tu fais à un moment donné? Ben, tu décides d'aller au privé, puis de payer, parce que la machine est pas capable de te trouver un rendez-vous. Et puis les gens, parce qu'ils ont besoin d'un bilan sanguin, parce qu'ils ont besoin de faire évaluer un certain nombre de paramètres, ben attendent pas après la machine gouvernementale. En parlant de santé, ma boîte de courriel s'est remplie hier de messages d'infirmières. Puis on va revenir là sur le rejet de l'entente de principe par la FIC. Là, je sais que les infirmières sont en maudit, là. Puis des infirmières de 10 ans d'expérience, de 20 ans d'expérience. Puis des fois, entre infirmières, c'est pas toujours, l'harmonie, les plus jeunes, les plus vieilles. Tu sais, des infirmières qui me disent, ben moi j'ai commencé, puis j'en ai fait des week-ends, puis j'en ai fait des nuits, puis les plus jeunes veulent pas faire ça. Puis comme il y a une rareté, ben elles finissent souvent par avoir un poste ou un quart de travail plus intéressant. Je rappelle que l'enjeu, il est facile à circonscrire, là. Les infirmières veulent pas se faire promener dans le réseau de la santé à l'intérieur des entités actuelles ou qui seront créées. Donc, si une travaille dans un hôpital, elle veut pas se retrouver dans un centre de soins de longue durée avec une affectation. Deuxièmement, je vous cite les infirmières qui m'écrivent, j'ai fait le choix de travailler à l'urgence, j'ai fait le choix de ne pas être en contact direct avec des patients. Je m'occupe, par exemple, des procédures post-opératoires ou, enfin, bref, il n'y a pas de contact comme tel. Elle dit ça, c'est mon choix et je n'ai plus la force de soigner les gens comme ça, première ligne. Je veux pas me faire lancer dans l'arène par un gestionnaire. Et ce qu'elles disent, c'est que beaucoup de gestionnaires profitent de certaines zones grises dans la convention collective pour faire ça. Le Conseil du Trésor nous explique qu'il s'agit là d'un énervement ponctuel, qu'on interprète les affaires et que c'est pas l'intention du gouvernement de promener tout le monde partout, là, puis de leur faire rouler 10, 15, 20 kilomètres, puis peut-être qu'il faut revoir le nombre de kilomètres, puis tout ça. En résumé, j'ai l'impression que les infirmières lâcheront pas le morceau. Puis quand j'ai les infirmières, là, c'est les inhalos, c'est tout le personnel de la FIC, les membres de la FIC, qui sont vraiment en tas. Et le gouvernement aurait intérêt à clarifier sa position, et non seulement en public, mais dans les textes de la convention collective. C'est quoi l'intention des gestionnaires et comment on met ça clair pour que ça soit compris par les infirmières? Sinon, ça passera pas plus. Puis on l'a vu dans l'Est de Montréal, on l'a vu en Mauricie. Je vais parler avec la présidente de la FIC pour la région de la Mauricie tantôt. Secteur scolaire. Écoutez bien celle-là. L'école secondaire Chavigny à Trois-Rivières. Il y a un professeur suppléant qui a été congédié. C'est un complotiste. Puis il donna un cours d'éthique et de culture religieuse aux élèves de 5e secondaire. Les propos sont les suivants. Il a dit que les Amish ne sont pas autistes parce qu'ils n'ont jamais été vaccinés. Il a dit que l'élection aux États-Unis était une arnaque totale, un vol. Et ça fait partie des propos. Et ce que ça soulève comme question, tu dis, mais comment ce gars-là a pu se ramasser dans une école, comment il a été recruté, qu'est-ce que ça dit sur la capacité en pénurie de trouver des gens qui ont du bon sens. Et il était abonné à toutes sortes de trucs, notamment lors de la manifestation des camionneurs. Ça a été, en fait, on le voit parmi les vidéos qui ont commencé à circuler dans l'école, le montrant donc dans les rues d'Ottawa avec les camionneurs complètement intoxiqués. Et là, les parents ont vu ça, puis ils ont décidé de porter plainte, puis le gars a été congédié. Maintenant, parlons un peu ce matin de nos aînés. Il y a un truc dans Le Devoir qui me laisse un peu perplexe, pour tout vous dire. c'est qu'on constate que les personnes âgées ont des carences alimentaires. Ça, c'est correct. C'est vrai. Pourquoi? Ben parce qu'elles mangent moins. L'appétit est peut-être pas au rendez-vous. Puis ça leur tente peut-être pas de manger seul, de se faire à manger. Ce qui fait qu'on a organisé un projet pilote pour aller porter aux aînés 300 millilitres de lait par jour et également des multivitamines. Et ça fait longtemps que j'ai des doutes pour les adultes sur la consommation de lait. Il y a, tu peux prendre des produits laitiers, tu peux prendre du fromage, du yogourt, il y a moyen d'aller chercher des protéines autrement que le lait. Mais on le sait, là, l'industrie laitière, c'est très, très fort. Et est-ce que, tu sais, un verre de lait, c'est correct, mais deux, c'est encore mieux, là? Bon, ben, ce qu'on a entré dans la tête des gens. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'experts qui vont dire que oui, c'est très bien, puis ça va permettre d'avoir du calcium, puis d'avoir des... Bon, perso, j'ai un doute là-dessus. Puis je me souviens d'avoir discuté de ça longtemps avec mon ami Daniel Pinard, et lui aussi trouvait que rendu à un certain âge, le lait, c'est peut-être pas ce qui est le plus indiqué. Donc, vous allez retrouver ça ce matin. Puis il y a tout un débat politique autour des propos de Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit que si le Québec devient pas un pays, ça va être la Louisiane sous peu ou ça va être l'équivalent du sort des francophones à l'extérieur du Québec. Et il s'est fait ramasser un peu en disant que c'est pas par des arguments de peur, et je pense entre autres à Gabriel Nadeau-Dubois, qui est souverainiste, qui devrait faire partie du même camp lors d'un éventuel débat référendaire, que c'est pas comme ça qu'on convainc les gens. C'est pas en brandissant des épouvantails que les gens vont adhérer à la souveraineté. Paul Saint-Pierre Plamondon a répondu, c'est pas de faire peur au monde quand on dit la vérité. Et la question qu'on pourrait poser aussi, c'est que qu'est-ce qui va stopper l'érosion du français dans un Québec souverain? L'attrait pour l'anglais, puis là, après ça, on pourrait dire, oui, mais les politiques linguistiques, les politiques d'immigration, vrai. Mais en même temps, est-ce que c'est à ce point? Parce qu'on peut débattre longtemps de l'état du français, par exemple, dans la région de Montréal, et on voit que selon les études, selon les indicateurs, la langue parlée à la maison, la langue de travail, la connaissance de la langue, ça donne pas tout à fait la même réalité.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, on va prendre le budget présenté hier par Mme Freeland pour le décortiquer. On va faire ça en deux blocs ce matin. Pierre-Yves, évidemment, est avec nous.
Oui.
Il a été séquestré hier dans le fameux huis clos pour prendre connaissance de la brique. C'est quoi, 400 quelques pages?
Oui, en français, il y en a plus, hein? Parce qu'il y a plus de mots en français pour dire les mêmes choses. Donc oui, la version française était plus longue.
OK, on va commencer là, par le déficit. Oui. C'est quoi le plan de match du fédéral là-dessus?
Plan de match du fédéral et déficit, ça va pas ensemble, mais on va essayer. Ce qui est spécial, puis ce qu'on a remarqué hier, c'est que là, on a un déficit qui est près de 40 milliards de dollars, qui va se résorber de moitié sur 5 ans, mais on va encore avoir un déficit monstre de 20 milliards. On est rendu habitué avec les libéraux d'avoir des déficits monstres, tellement qu'on est habitué. Et donc, la stratégie, c'est de l'amortir grâce à la croissance des revenus budgétaires qui va passer de 498 milliards à 586 milliards éventuellement. Donc, on se fie sur la croissance économique, la hausse des taxes et des revenus, et on veut faire de l'attrition, hein, au gouvernement. On a dit, il y a des fonctionnaires qui vont passer.
5 000
l'attrition. Donc, ça, c'est le plan. Maintenant, parlons du striptease séparé du gouvernement là-dessus. C'est que, dans le fond, on avait bien peur qu'il augmente encore le déficit. Et eux, ils se sont dit, bon, là, on a tous montré nos belles mesures fiscales pour aider le monde, puis bien paraître, puis acheter des votes. Là, quand on présente le budget, là, ça prend une affaire, ça prend une mesure qui va contrecarrer le déficit. Et c'est là qu'ils sont allés chercher l'espèce de lapin du chapeau de dire, on va taxer les riches. Tu sais, ça, si je te dis, on va taxer les riches, ça représente un faible pourcentage du Canada. Tu vas dire, OK, on va taxer les riches, d'accord. Puis là, tu te sens pas riche, donc tu dis, ah, parfait. Mais c'est quoi taxer un riche pour le fédéral? C'est pas vraiment ça, taxer les riches. C'est qu'on va taxer plus des gens qui vont faire éventuellement dans leur vie un gros gain dans une année. Puis là, je vais te mettre en contexte.
Donne-moi un exemple clair de qui, ce matin, se trouve concerné par ça.
T'as une personne qui a travaillé toute sa vie. Toute sa vie, puis qui a tout mis sa retraite dans son plex. T'sais, cette personne-là n'a pas de régime de retraite, n'a pas d'avantages sociaux, travail autonome, puis tout ce qu'il y a là, c'est son plex qui aujourd'hui vaut 1 million $. Cette personne-là a payé son plex, disons, 225 000. Elle a un énorme gain en capital de valeur qui, présentement, est imposé à 50 %, c'est-à-dire que la moitié n'est pas imposable, parce que c'est du gain. Jusque-là, on suit tout le monde, là, des centaines de milliers de dollars en gain en capital, c'est moins imposé que du revenu. Là, on augmente l'imposition du gain qui dépasse 250 000. En disant, les riches Canadiens, c'est méchant loup-garou. C'est aussi Jean-Claude, qui a un quintuplex locatif à côté de son condo depuis 30 ans, 25 ans. Alors, l'année que Jean-Claude va vendre son plex avec un énorme gain, le gouvernement va lui dire, sais-tu quoi, Jean-Claude, t'es un riche cette année. Et tu vas payer plus d'impôts sur ce qui dépasse 250 000 de gains. Là, le gouvernement fédéral me répond, oui, mais regarde, s'il y a un couple, ben, c'est deux fois 250 000, c'est moins pire. Donc, je dis, oui, mais dans un couple, il y en a un qui meurt des fois. Qu'est-ce que vous allez faire avec le 250 000 de la personne qui est décédée? L'autre personne ne vendra pas le plex parce que l'autre est morte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tu sais... C'est là l'enjeu. C'est qu'on vise des riches en disant les riches qui font du gros gain de 250 000 et plus par année sur des placements, on va les taxer.
Une question.
Oui.
Est-ce qu'avec une mesure comme celle-là, ça peut faire en sorte de ralentir la construction de logements?
Ça va plutôt changer la façon de disposer tes biens. Je répondrai à Mme Freeland, mettons que je suis multimillionnaire, puis j'en ai des placements hors REER, hors CELI qui sont imposables sur le gain. Puis que je sais que j'ai 250 000 de gains maximum pour avoir le taux d'imposition un peu plus faible sur le gain. Mais je vais vendre au maximum pour générer 249 000 de gains. Je vais générer des pertes sur certains placements. Je vais fabriquer des pertes en vendant des titres de façon, disons, dans le temps pour optimiser ça. Alors, sa mesure, elle pense aller récupérer de l'impôt avec ça, vrai, pour des très, très grands gains de gens qui vendent des affaires. Mais... C'est pas vrai qu'on taxe les riches, là. On taxe pas les actifs des riches canadiens. On taxe des transactions dans une année qui sont trop grandes en volume. C'est ça qu'on fait.
OK, puis ça inclut, là tu parles d'immeubles, mais ça inclut les placements, puis ça inclut le chalet, là, éventuellement.
Ça inclut tout ce qui est imposable. Donc, on enlève tout ce qui n'est pas imposable. Ta résidence principale n'est pas imposable.
Okay.
Ton premier 1 250 000 quand tu vends une entreprise, c'est pas non plus imposable maintenant. Ça a passé d'un million à 1,250 millions. On n'impose pas non plus de bon ton CELI, ton REER, etc. Et donc, on dit, ce qui est hors mesure normale, on va l'imposer davantage. Et là, évidemment... La main aurait pu se lever du côté des entrepreneurs pour dire, écoutez, là, nous, on vend des business. Là. Le gain en capital est 50 % sur ce qui dépasse le million, mais on vend des business privés. Ça veut dire que vous venez d'augmenter nos impôts sur nos business privés qu'on va revendre? Là, on me dit non. Parce qu'on va mettre une nouvelle patente à gosse en place qui va se faire sur 10 ans. Les entrepreneurs vont gagner le droit d'exonérer de cette nouvelle mesure-là jusqu'à 2 millions de dollars de gains sur la vente d'une entreprise, en plus du 1 250 000, en cumulant ce gain-là sur 10 ans. C'est compliqué pour monsieur, madame, tout le monde.
Ben, c'est parce que là, quelqu'un qui nous écoute ce matin va se dire la chose suivante. Ouais. Moi, j'ai pas d'immeuble, puis moi, non. J'ai pas d'entreprise, puis que les entreprises contribuent davantage, puis que les gens qui font de l'argent en vendant des immeubles payent plus, c'est bien correct.
OK, je vais te mettre ça à l'envers.
J'ai entendu des analystes dire ça hier.
OK, je vais mettre ça à l'envers. C'est correct, c'est vrai, on peut décider ça. Et des gens qui vendent leur maison, demandez pas. Puis qui tombent à 62 ans, sont un couple, puis ils ont un pactole ensemble. Puis c'est leur retraite, tu comprends? Il y a une portion en REER, une portion en CELI. Et ces gens-là, des fois, il y a des gens qui décèdent. Bien, quand tu décèdes avec des placements en REER, puis tu es obligé de liquider tous tes placements au moment de ta mort, tu as un gain sur tes placements. Si tu les as pas vendus, tu n'as pas réalisé ton gain dans le passé, tu peux atteindre ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'atteint pas... C'est pas le riche qu'on frappe, c'est la personne qui fait un gros gain dans une année... Même si on dit que ça touche à un certain pourcentage des Canadiens, je suis tanné que le gouvernement fédéral parle d'un riche comme un revenu annuel une seule fois. J'aimerais ça qu'on me dise, Pierre, il y a des gens qui valent 30 millions puis que leur revenu annuel est bien ordinaire, puis qu'on arrête de qualifier riche une personne qui a un revenu annuel à cause d'un gain en capital ponctuel une fois dans sa vie. T'sais.
le plan pour la construction de logements.
Il y en a beaucoup, mais on se souvient qu'il y a eu le fameux RAP qui est plus élevé. Maintenant, on peut retirer 60 000. Puis, je dis, vous faites plein de mesures pour le logement. En même temps, vous ne trouvez pas que c'est improductif. J'ai posé la question.
Est-ce que c'est une mesure qui aide vraiment les Canadiens à moyen terme ou c'est beaucoup plus une mesure électorale?
Merci pour la question. Et vous avez raison que la chose la plus importante pour nous, c'est de construire.
Ça, c'était sa ligne. Oui, elle avait apprise.
Il fallait la placer.
Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit, vous augmentez l'aide aux acheteurs qui veulent acheter. Donc, vous donnez du pouce à la demande. C'est pas ça qu'on veut. Et donc, pour compenser ce problème, on est allé construire beaucoup ou dire qu'on va construire. On dit qu'on va rendre disponible 3,87 millions de nouveaux logements d'ici 2031. Bon, on s'entend pas. C'est pas le gouvernement fédéral qui va bâtir des logements. C'est qu'on met des mesures en place, puis on se dit, ça va générer la construction de logements. Et je te donne des exemples. Hier, on a fait un paquet de mesures tellement qu'on n'avait pas le chiffre. Là, on parle de 8,5 milliards de nouvelles mesures sur le logement. C'est pas clair pour les journalistes parce qu'il y a plein d'affaires mélangées, il y a des redites. Mais en somme, je te donne un exemple. On dit qu'on va libérer des terrains de Post Canada pour construire des logements. OK, Post Canada a sûrement des terrains pour prévoir le futur, puis on dit qu'on va convertir ça en logement. On dit qu'on va prendre des édifices fédéraux qui sont ciblés, puis qu'on va regarder lesquels on peut vider, lesquels on peut optimiser, puis on va mettre un milliard là-dedans pour réfléchir à ça, pour construire des logements, pour convertir des immeubles, dans le fond, de bureaux à commerciaux ou de bureaux en logements. On va donner de l'argent aussi pour des terrains publics. On dit qu'on va même mettre une taxe sur les terrains vacants. Mais la taxe sur les terrains vacants, quand on regarde dans le budget, comment on va la mettre en place? On ne sait pas encore. Évidemment, on dit ça. On va taxer les terrains vacants, mais là, on va jouer dans la cour des municipalités, des provinciales. Donc, il y a ça aussi, l'espèce d'interventionnisme. Donc, on vise beaucoup, beaucoup des gros chiffres de logements. Logements supplémentaires ici et là. 2 millions de nouveaux logements venant d'être ajoutés aux 1,87 millions de logements. Mais on n'a pas, évidemment, de marteau dans les mains. Puis on n'a pas non plus de projet. On dit qu'on va aider. Puis une autre mesure qu'on fait, c'est on va bâtir des cahiers de construction clé en main que toi, comme entrepreneur, tu vas pouvoir développer.
Mais je voudrais donner un exemple de ça. Notre collègue Luc, oui, l'ancien maire du Plateau, a vu des projets comme ça naître de logements abordables à partir d'Ottawa, puis à partir de Québec, puis dans certains cas, la ville est impliquée aussi dans ça. Mais le problème, c'est que ça prend tellement de temps les développer,
oui,
qu'ils tombent hors programme. C'est-à-dire que si tu avais prévu tant par unité de logement, il y a un an ou un an et demi, le faire maintenant, ça va te coûter plus cher, ce qui fait que le programme ne marche pas, puis qu'il y a des projets qui ne lèvent pas. Tu sais, l'argent, on l'annonce à coups de milliards pour les prochaines années, mm-hmm, mais dans les faits, est-ce qu'on est capable de le faire?
Oui, puis on donne des milliards aussi, ou des millions pour les infrastructures, pour aider au développement des logements. On dit on va aider, j'ai bien aimé ça, la clause tramway. C'est que on a dit dans le fond, si vous voulez avoir de l'aide fédérale pour des infrastructures, pour aider au développement de secteur, va falloir que vous éliminiez les stationnements obligatoires autour d'infrastructures avec les logements. Par exemple, si vous êtes un promoteur puis que la ville vous imposait avant d'avoir tant de stationnements par logement, ben, si vous êtes dans le rayon du nouveau projet et vous voulez être subventionné par le gouvernement, ben, vous pourrez pas obliger les gens à avoir des stationnements. Donc, ça aide la densification, c'est un peu ce qu'on comprend. Il y a beaucoup de mots logement dans le budget, puis il y a le mot autochtone aussi. Tu sais, on pèse sur des points importants, mais ce qu'on retient, c'est qu'on est allé donner de l'argent aux gens qui veulent acheter en disant on va vous donner des avantages fiscaux, c'est l'IAP et augmentation du RAP. Puis, on essaie de contrecarrer les gens qui ont la demande. On n'a pas plus de maisons, on n'a pas plus de logements au Canada demain matin, là. Donc, on a encore un problème. Puis, on peut pas le régler au gouvernement. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on va peinturer le budget. 20% du budget en page, là, c'est le logement. On va peinturer le budget, mais jamais M. Trudeau va être le contracteur de ces projets-là. Donc, on veut mettre en place des ouvertures, donner un signal, je pense. Ça, c'est la chose que je peux donner. Quand le gouvernement dit « on va regarder nos terrains vacants puis on va s'arranger pour vous les fournir », ça donne une idée que le gouvernement commence à comprendre le bouton panique sur le logement.
OK. Et juste conclure sur l'ensemble des programmes qui ont été annoncés, mm-hmm, qui, disons, on a vu le striptease, là, oui, puis on le sait, là, pour ce qui est, par exemple, de nourrir les enfants qui ont, oui, faim dans les écoles. Dentaire, système de régime d'assurance dentaire, médicaments, mmh, là, contraception, l'insuline, oui, pour les diabétiques. Là, ça veut dire qu'ils arrivent avec le chéquier dans à peu près tout ce qui est de programme des provinces, là.
En fait, c'est que tu fais un budget avec 40 milliards de déficit à peu près, puis tu viens dire, je vais aller jouer en plus dans les enveloppes budgétaires dans lesquelles je suis pas impliqué, c'est les provinces. Donc, c'est vraiment, je te parlais de ça hier, l'enjeu qu'on remarque, c'est que le gouvernement fédéral, en se mêlant des provinces, ajoute de l'administration, ajoute de la complexité et va jouer dans l'enveloppe budgétaire provinciale. Donc, le vrai défi ici, c'est de dire au fédéral, arrêtez-moi ça, donnez-nous le chèque, puis on va le mettre dans notre programme qui existe déjà. Un bon exemple que je te donne qui est du gaspillage d'encre, là. Quand tu as des logements au Canada, faut que tu démontres au fédéral maintenant, dans certaines circonstances, que ton logement, il est pas vacant. Donc, faut que tu remplisses un formulaire. Faut que ton comptable remplisse le formulaire quand c'est par un INC, par exemple. Puis là, faut que tu payes des frais pour montrer à l'administration publique que ton logement est pas vide. Entre toi et moi, là. Tu sais, mon logement est pas vide. Mais il y a aussi des mesures, là, des micro-mesures, comme d'habitude. On va taxer le vapotage, taxer la cigarette, 4 piastres de plus, le carton de cigarette. Si t'es pompier volontaire, Paul, dans quelques années, tu auras droit à 900 $ de plus par année, qui va vraiment changer ta décision de devenir pompier volontaire ou non. Et j'ai remarqué aussi tout ce qui est très politique là-dedans. On donne de l'argent au musée de l'Holocauste et contre l'islamophobie. Donc, on va chercher dans le conflit israélo-palestinien une petite signature budgétaire pour dire on a pensé à vous puis on pense à tout le monde au Canada. Donc, tu vois jusqu'où on va dans le budget.
Est-ce qu'en terminant, c'est vrai que c'est un budget pour les jeunes? C'est vendu comme ça.
Ben, en fait, c'est qu'on donne des avantages fiscaux aux jeunes acheteurs en leur faisant
miroiter. Même les diplômes, par exemple, les bourses.
Diplômes, puis... l'avantage d'entente. On fait croire aux jeunes que ça va les aider. À court terme, ça peut être vrai. À très, très court terme, là. T'achètes ta maison de main, tu vides ton réel, t'as l'impression d'avoir du cash. Mais à long terme, le budget est le même, la dette publique est la même, le déficit est le même, puis c'est la même population, et le jeune sera vieux. Donc, quand le jeune, dans quelques années, sera vieux et paiera la facture de ce qu'on est en train de faire, il y aura eu une maison peut-être plus facilement pour 2 mois dans sa vie, mais il va payer la facture plus tard.
Merci, monsieur. Merci beaucoup.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Dossier numéro 1 ce matin, des pédophiles et des gens qui sont sans scrupules, des gens qui abusent d'enfants, même à l'étranger. C'est le cas de Gilles Provencher qui fait face à des accusations extrêmement sérieuses de production de matériel de pornographie qui implique des enfants et sa façon de faire est détaillé ce matin dans la presse. Ça découle du témoignage de l'enquêteuse au dossier, Mélodie Leclerc, du SPVM, qui a expliqué comment exactement il produisait tout ce matériel. J'en parle avec le journaliste Louis-Samuel Perron. Louis-Samuel, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, peut-être d'abord nous parler de ce gars-là. Là. Gilles Provencher, il a été arrêté quand, puis on l'accuse de quoi officiellement?
Gilles Provencher, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une personnalité importante dans le monde communautaire. C'est un homme qui était respecté, qui avait une aura selon ses collègues. Il dirigeait un centre d'aide aux nouveaux arrivants, le Carrefour Solidarité Anjou. Ça, c'est un organisme dans l'Est de Montréal qui aide les nouveaux arrivants. Et là, ça a été la stupeur dans la communauté quand il a été accusé en mai 2023 de nombreux chefs de nature sexuelle. On n'en a pas parlé depuis. Cette histoire-là est passée complètement sous le radar, mais c'est revenu dans l'actualité le mois passé lorsque Gilles Provencher, qui était détenu depuis, a demandé sa remise en liberté.
Et là, on l'accuse de production de pornographie impliquant des enfants.
Exactement. C'est une enquête d'envergure internationale. C'est des faits hors du commun. Ce qui est extrêmement particulier, c'est qu'il n'y a aucune victime au Canada. Toutes les victimes alléguées sont au Mali parce que Gilles Provencher avait de nombreux liens avec le Mali. Et là, on l'accuse, selon la Couronne, d'avoir payé de nombreux complices pendant des années au Mali pour trouver des victimes, pour exploiter sexuellement des fillettes. C'était vraiment un modus operandi qui était bien huilé, selon la policière. Ils ciblaient des filles dans des villages reculés au Mali, les payaient. Et là, c'est ce qu'on... Selon la couronne, le stratagème de Gilles Provencher s'apparente à du grooming, c'est-à-dire qu'il désensibilisait les victimes pendant des mois. Donc, en les désensibilisant graduellement à la sexualité, d'abord, il pouvait leur payer des belles robes, des coiffures, reposer donc avec des vêtements. Puis, au fil des mois, Provencher les amenait donc à se dévêtir, puis finalement, à poser des gestes sexuels complètement odieux avec d'autres enfants ou avec des complices adultes, là, selon la preuve de la couronne.
Et ces actes sexuels à répétition étaient filmés, mais ce qui est particulier, c'était pour sa consommation personnelle.
Exactement. Selon la couronne, Gilles Provencher consommait pour son propre bénéfice ces vidéos-là. C'était complètement horrible. C'était des vidéos d'agression donc en direct qui est un phénomène en croissance, semble-t-il, là, selon l'enquêtrice. Et les victimes l'appelaient grand-papa, se surnommaient Madame Provencher. Et donc, c'était vraiment une recherche quotidienne de victimes, selon la couronne. Là, c'était même son hygiène de vie. Donc, c'était vraiment une double vie, apparemment, que cet homme-là vivait, qui était proche de la communauté malienne, du monde communautaire le jour et le soir. Puis dans ses temps libres, visiblement, son passe-temps principal, c'était d'exploiter sexuellement des fillettes. Puis ce qui est particulier, c'est qu'on ne sait pas combien il y a de victimes dans cette affaire-là. Donc, les policiers ils ont seulement retrouvé spécifiquement une seule enfant qui est à l'origine de l'enquête, mais ils ont soupçonné qu'il y ait des dizaines d'autres victimes puisqu'il a payé il a transféré des milliers de dollars de fonds à des complices en Afrique pendant une très longue période.
Bon, tu parles de l'observation en solitaire parce que j'ai déjà vu dans certains dossiers des gens qui commandaient des actes sexuels sur des enfants, qui avaient comme un partage des images et puis qui étaient capables de dire, ben, peux-tu lui demander de faire ci, peux-tu lui demander de faire ça, ce qui n'est pas le cas de Provencher, là.
Exactement. Donc, c'était vraiment pour sa propre consommation qui lui a peut-être permis de passer sous le radar pendant plusieurs années. C'est un homme méticuleux. C'est un ingénieur de formation. Il utilisait des plateformes cryptées, par exemple WhatsApp. Donc, ça passait complètement sous le radar des autorités puisque il faut comprendre que la plupart des pédophiles partagent leurs images lorsqu'elles sont produites. Selon l'enquêtrice là, qui a témoigné durant les audiences, c'est assez rare qu'un pédophile ne partage pas les images qu'il produit. Donc, c'est ça qui est assez particulier. Et par ailleurs, l'enquêtrice évoquait que c'est un phénomène en grande croissance, ça, le fait que des pédophiles visionnent donc en direct des agressions sexuelles sur des jeunes victimes, ce qui rend extrêmement difficile la tâche aux autorités pour pincer les agresseurs.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Louis-Samuel Leperron, qui est journaliste à La Presse. Et là, on va voir évidemment comment le procès va se dérouler, mais ça peut pas faire autrement que de nous rappeler le cas d'un autre, un psycho-éducateur retraité de Montréal, Sylvain Villemaire, qui a littéralement acheté une petite fille en Afrique pour en faire une esclave sexuelle. C'est une fillette de 8 ans qui avait été achetée et qui l'a ramenée au Canada. C'est pas des farces, là. C'est un bien de consommation. Et bon, il a été condamné à la prison. Ce sont les mêmes policiers-policières qui ont arrêté le gars. Et dans ce cas précis, ils allaient le voir pour possession de matériel, de pornographie. On savait même pas que la petite était là. Au moment où les policiers sont arrivés sur place, ils ont découvert l'enfant de 8 ans. Puis là, ils se sont dit, mais elle fait quoi avec ce monsieur-là? Puis on a compris donc qu'elle avait été exploitée sexuellement. Ce matin, je reviens sur une enquête menée par le journal La Tribune concernant la fraternité sacerdotale de Saint-Pie-X. Vous allez me dire de quoi on parle. C'est un mouvement catholique intégriste qui est né à l'époque des grandes réformes de l'Église. Il y avait le Monseigneur Lefebvre qui voulait pas, par exemple, adhérer à cette nouvelle façon que l'Église, par exemple, organisait les messes. Donc, ce sont des traditionalistes qui ont formé ce mouvement. Paraît-il qu'il y a 600 000 adeptes à travers le monde et ils sont très bien implantés au Québec. Et encore là, ben, planent des doutes, des accusations concernant des prêtres qui ont commis des actes de nature sexuelle, des agressions à répétition. Benjamin Effa est avec nous. Il est le porte-parole du collectif des victimes de cette fraternité. Benjamin Effa, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan. Merci de m'accueillir ce matin sur votre antenne.
Parlez-moi donc de ce collectif des victimes, parce que ce sont des gens qui sont implantés partout dans le monde, là, mais à Montréal, à Lévis, à Sherbrooke, à Shawinigan. Donc, ce sont des gens actifs au Québec.
Oui, absolument. La fraternité sacerdotale Saint-Pilice est très active au Québec et un mouvement d'implantation dans la province depuis quelques années. De, par exemple, sa maison de district, c'est-à-dire l'endroit où se trouvaient les chefs de la fraternité Saint-Pilice au Canada, se trouvait à Toronto et ça a été déplacé à Saint-Césaire au sud de Montréal il y a peu. Donc il y a vraiment une volonté de s'implanter au Québec. Okay. Du côté de notre collectif, on s'est créé il y a 2 ans en fait, avec des victimes, des anciens élèves d'école de la fraternité Saint-Pilice, un peu dans le monde entier, qui sont entrés en contact entre eux par le travers des réseaux sociaux, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls et ont donc décidé de lancer des appels à témoins et de médiatiser ces choses qui étaient assez peu connues jusque-là.
On a réussi à identifier combien de prêtres abuseurs jusqu'à maintenant?
Des informations que nous avons recueillies auprès de nos contacts un peu partout dans le monde et des documents internes auxquels on a eu accès de la fraternité elle-même, on estime qu'on a environ 60 prêtres qui peuvent avoir des comportements problématiques pouvant aller jusqu'aux abus. Sur un total de 600 à 700 prêtres au total dans la fraternité, c'est un total qui est vraiment impressionnant.
Est-ce que certains de ces prêtres ont été arrêtés, ont fait l'objet de procès?
Oui, plusieurs d'entre eux. Alors, c'est notamment rappelé dans l'enquête de la Tribune, avec un prêtre qui a été arrêté en Suisse dans les années 2010. On a eu en France, depuis l'année dernière, 3 prêtres différents qui sont passés devant les tribunaux, dont l'un d'entre eux a été condamné à 20 ans de réclusion pour des viols sur plus de 27 mineurs. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important et qui se retrouve dans les faits condamnés par la justice.
Bon, on parle évidemment là d'abus sexuels, mais on pourrait parler dans ce genre de mouvement d'abus financiers, psychologiques, et on tente toujours d'étouffer l'affaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les pratiques de cette fraternité?
Au niveau des pratiques de la fraternité, il faut que vos auditeurs visualisent bien que les gens qui sont à la fraternité vivent uniquement dans la fraternité, c'est-à-dire qu'elle a ses écoles, qu'elle a ses pensionnats, que les familles vont venir habiter pas loin des églises, vont avoir tous leurs amis qui sont dedans, très peu de contact avec l'extérieur. C'est-à-dire que vous ne vivez que là-dedans, que dans une société qui est comme celle que l'Église catholique mettait en avant dans les années 1910. Vous revenez dans le Québec d'avant la Révolution silencieuse et très en amont de cette Révolution silencieuse. Donc, il y a vraiment un aspect tabou, il y a un aspect sacré, puisque le prêtre est le représentant de Dieu sur Terre. Il ne peut pas faire de mal. Et c'est donc inimaginable, même lorsque il y a des dérives sectaires, des abus financiers, des abus sexuels sur les enfants. C'est inimaginable pour les victimes, pour les familles, de lutter contre cela et vont tout simplement effacer tout ça et ne voir que le prétendu positif.
Bon, vous m'avez parlé de prêtres à travers le monde, dans plusieurs pays, le Gabon, la Suisse. Est-ce que vous savez s'il y a eu des abus commis ici au Québec? Il y a donc des victimes au Québec?
Alors, nous n'avons aucune certitude sur ce qu'il a pu se passer au Québec. Cependant, l'ancien supérieur du Canada vient de reconnaître des agressions sexuelles devant un tribunal en France, et ces agressions sexuelles sont produites entre 2003 et 2018. Or, il se trouvait au Canada de 2006 à 2008, puis à Saint-Césaire au Québec de 2019 à 2022. Et on sait sur les cas d'abus sexuels, même en dehors de l'Église, les prédateurs sexuels, ceux dont vous parliez juste avant, ce ne sont pas des gens qui s'arrêtent. Ce ne sont pas des gens qui s'arrêtent. Et cet ancien supérieur Arnaud Rostand n'est pas le seul prêtre prédateur passé par le Québec. L'abbé Patrick Groche, qui a également reconnu des viols sur un certain nombre d'enfants au Gabon, en France et ailleurs, a aussi été à Saint-Césaire. Ça veut dire qu'on a un regroupement de prédateurs à certains endroits au Québec. Et lorsqu'on sait qu'une école a ouvert à Saint-Césaire où étaient réfugiés ces prédateurs, il faut se poser des questions et évidemment solliciter la vigilance des parents des enfants qui se trouvent à ces endroits-là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et s'il y a des gens qui ont des informations, ben on peut joindre le collectif, puis encore mieux, porter plainte à la police. Mais vous voyez à quel point ces abuseurs d'enfants rayonnent dans le monde et que c'est pas simple de les coincer. Parfois, ils utilisent des technologies pour se protéger, puis parfois, ben, ce sont les méthodes du Moyen-Âge pour imposer le silence, l'omerta dans la communauté. Et pour les abus sexuels, mais pour les abus de toutes sortes, ce qui sont des caractéristiques là, des mouvements sectaires.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Vous vous souvenez de cet engagement du gouvernement de créer des mini-hôpitaux privés. Là, finalement, au début, c'était assez flou, on va se le dire. Là, on comprenait pas trop. Le gouvernement s'en allait avec ça. Ça va prendre la forme de clinique gériatrique. C'est ce que Christian Dubé a dit hier. Et c'est Youri Chassin, qui est le député de la CAQ pour Saint-Jérôme, qui pilotait ce dossier des mini-hôpitaux privés. Monsieur Chassin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Acran.
Expliquez-moi comment ça va fonctionner, votre mini-hôpital gériatrique.
Essentiellement, c'est un modèle innovant hein, qu'on va mettre sur pied. Puis, essentiellement, on a écouté les gens du terrain parce qu'on veut répondre à des besoins des patients, des besoins aussi des établissements publics, parce qu'il faut que ce soit complémentaire. Puis, essentiellement, on va avoir finalement toutes sortes d'urgences mineures là, qui vont pouvoir être traitées en dehors des urgences, mais sur des profils gériatriques, donc essentiellement nos aînés. Pourquoi? Parce que c'est, entre autres, eux, qui souffrent le plus de se retrouver, par exemple, longtemps à l'urgence ou même hospitalisés. L'hospitalisation, là, ça peut, dans le fond, là, on appelle ça décompenser dans le réseau de la santé, mais ça peut essentiellement leur causer des problèmes ailleurs que, par exemple, ce sur quoi ils viennent consulter. Okay. Et ça, c'est vraiment un besoin là, qu'on constate dans nos urgences au Québec.
OK. Soyons très pratico-pratiques. Là. La première clinique, ou en tout cas le premier hôpital, le mini-hôpital, va être installé dans l'est de Montréal, c'est ça?
Oui.
Ça va
dans la région de Québec.
OK, l'autre, le deuxième.
Le deuxième.
OK. Ça devrait être fonctionnel quand, ça?
Ah, alors évidemment, le défi qu'on lance à d'éventuels partenaires privés, c'est de réaliser ça assez rapidement. On voudrait conclure, dans le fond, le processus d'appel d'offres, puis la signature des contrats cette année, pour que ça puisse ouvrir idéalement en 2025. Donc, évidemment, on parle peut-être plus de la fin 2025, mais assez rapidement. Puis donc, on a besoin de cette aide-là aussi assez rapidement pour décharger nos urgences, puis améliorer la fluidité là, pour tous les patients.
OK. Encore plus clair, là. Donc, c'est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7.
Oui, exact. Alors, il y a de la lumière dans la bâtisse, là, tout le temps. On va pas nécessairement.
Y a-tu du monde dans la bâtisse tout le temps?
Oui, c'est ça. Il y a du monde dans la bâtisse tout le temps aussi. Mais évidemment, on va pas nécessairement accueillir les patients la nuit si c'est des urgences mineures. Généralement, quand c'est des urgences mineures.
Là, vous me perdez, là. Vous me parlez d'un mini. Oui, vous me parlez d'un mini-hôpital ouvert 24 heures, 7 jours par semaine, mais ça se peut que des patients ne soient pas traités.
En fait, c'est plus une question d'admission. Puis là, je vous explique un peu ce que moi, on m'a raconté, hein, parce que on se fie sur les experts, les gens de terrain. Puis essentiellement, quand on a des gens qui sont, oui, malades, oui, qui ont besoin d'une attention rapide, mais essentiellement, là, on veut se faire soigner, oui, mais on n'est pas... Okay. L'article de la mort. Donc, c'est des P3, P4, P5 là, dont on appelle. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut effectivement être dans un mini-hôpital, mais entre telle heure et telle heure. Puis, après ça, si on a besoin de rester, on veut pas, en fait, M. Arcan, que le partenaire privé se décharge vers le public, donc qu'il retourne, par exemple, à l'urgence,
Monsieur Chassin,
quelqu'un qui a
rien.
Été admis.
Je comprends alors, rien de ce que vous me dites.
Je vais essayer d'être plus clair.
Mais regardez, je vous pose une question bien claire. Mettons, allez-y. Je suis vieux, il est 3h15 du matin, puis ouais. J'ai mal. Je me présente dans l'Est à votre mini-hôpital. Est-ce que je serai traité, soigné?
Alors, la première chose, c'est qu'on arrive par soit le gap, soit une redirection, mais on veut être certain que les gens qui vont aller là, ça soit pertinent qu'ils y aillent. Donc, on ne s'y rend pas par ses propres moyens comme ça. On vérifie d'abord qu'on puisse okay, y aller. Ça, c'est la porte d'entrée.
Oui, mais quand je vais à l'urgence, je passe pas par le gap parce que votre patente marche pas. Exact. On l'a vu hier avec M. Fortin. De façon générale, ça veut dire que vous me créez un mini-hôpital puis il va falloir que quelqu'un décide de m'autoriser à y aller en pleine nuit si je suis vieux. C'est ça?
Alors, essentiellement,
oui.
Quand on va à l'urgence, c'est un peu la porte d'entrée de dernier recours. Là. C'est ça le problème. On veut changer ces habitudes-là. Puis vous savez, M. Arcand, c'est pas vers là qu'on devrait se tourner essentiellement là, l'immense majorité du temps quand on est des cas d'urgence mineurs. Alors, c'est pour ça que ça va exister. Il va y avoir pour nos aînés qui ont des problèmes de santé, qui sont pas à l'article de la mort, c'est pas quelque chose d'urgent, qui peuvent peut-être attendre quelques heures avant de s'y rendre. Parce que c'est ça aussi, il n'y a ça, pas c'est... de gens qui se pointent la nuit s'ils ont un peu mal au ventre. Ils vont aller très tôt peut-être, mais on va les accueillir très tôt. Ça, il n'y a pas de problème. Puis après ça, si on doit les garder, et ça, c'est ça qui est important, on ne va pas les retourner à l'urgence, là. On va les garder sur une chaise ou un lit d'observation, par exemple, puis on peut les garder toute la nuit. Ben parce qu'il y a des chaises d'observation. Alors, on m'explique que des fois, c'est plus intéressant pour certains aînés de passer 2 heures sur une chaise confortable que d'être alité
okay.
pour toutes sortes de raisons cliniques. Puis là, je m'aventure pas, je suis pas médecin.
Non, mais votre patente, là, on va se le dire, c'est pas un mini-hôpital. C'était comme une clinique où je prends rendez-vous, sauf que c'est ouvert 24 heures, puis 5 jours par semaine.
On n'a pas besoin de prendre rendez-vous.
Ben, vous venez de me dire qu'il faut que je passe par le guichet.
Ben oui, c'est ça. Mais donc, si on appelle au GAP pour dire, ben regardez, moi, j'ai un problème, là, je veux trouver quelqu'un qui va pouvoir me soigner,
ouais.
On va pouvoir dire, ben regardez, allez là, puis il n'y a pas de rendez-vous à prendre. On s'y pointe. Si on se pointe, par exemple, à l'urgence...
Si je cogne à la porte, y a-tu quelqu'un qui va m'ouvrir?
Ben oui, fort probablement, mais c'est pas ça le but. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un à l'urgence, par exemple, qui dit « Savez-vous, madame, votre problème, là, vous allez être mieux traité puis plus rapidement à tel endroit. On va vous rediriger. » S'il y a, par exemple, ça c'est la réorientation qu'on appelle. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui appelle une ambulance, qui dit « Ah, ça va vraiment pas », ben les paramédics vont voir aussi à évaluer ça. Puis, ah ben tiens, si on pense que c'est mieux là. Alors, essentiellement, là, puis là, comprenez-moi bien, il y a une question aussi de, puis je vais essayer d'être clair, mais il y a une question aussi de dire les bons patients vont aller aux bons endroits. Si ces gens-là, on veut les enlever d'urgence, on va pas les envoyer à l'urgence de Maisonneuve-Rosemont. Mais si ce sont des cas relativement urgents, on va pouvoir les envoyer là. Et ça leur donne des meilleures qualités de soins à eux. Mais ça enlève aussi les gens les urgences des hôpitaux. Ouais. Et c'est ça qui est utile.
Modestement, moi, vous suggérez une chose. Vous devriez, en tout cas, préciser dans l'appel d'offres exactement ce que vous voulez, parce que je suis pas certain que je comprends encore. Là. Vous faites de beaux efforts, je vous respecte pour ça. Là. Mais sérieusement...
en
là,
termes de pédagogie
je suis,
sur
mettons
le système
que je suis,
de santé...
Mettons que je suis vieux, là, puis que là, j'apprends qu'il y a une clinique ouverte, un mini-hôpital pour vieux dans l'Est. Puis là, vous m'expliquez qu'il faut que je passe par le gap, puis que peut-être on va ouvrir la porte, puis que peut-être on va m'asseoir sur une chaise, on va peut-être m'asseoir sur un lit, puis que ça mérite d'être attaché vos fils, là, parce que sérieusement, il n'y a personne qui comprend.
Alors, évidemment, quand on pense, par exemple, au centre HOP, il y a des gens qui vont là directement.
C'est quoi ça, le centre HOP?
Donc, c'est un centre qui traite des urgences pédiatrique. Alors, le ministre en parlait hier en crédit.
Oui.
Puis, c'est plus adapté pour les enfants. Là, c'est plus adapté pour les aînés. Mais en même temps, et c'est ça la difficulté, c'est qu'on lance un peu le défi aux partenaires privés de s'occuper d'une clientèle qui est parfois difficile, hein, qui a différentes problématiques, qui prend, par exemple, différents médicaments. Ça peut être complexe. On veut justement qu'ils relèvent ce défi-là. Et donc, on va leur envoyer les bons patients. Il faut pas que on leur envoie, par exemple, des gens qui sont dans des urgences, des P1 là, qui sont dramatiques.
Okay.
En même temps, il faut leur envoyer justement ceux qu'on veut ne pas envoyer aux urgences.
Okay.
C'est ça l'important.
Oui. Jeffrey Hale à Québec.
C'est comme un peu un tri.
OK. Jeffrey Hale à Québec, vous connaissez ça?
Oui, absolument.
C'est une clinique, ça, qui est un peu l'équivalent de ce que vous me parlez, puis ça permet de traiter beaucoup de patients. Il paraît qu'il n'y a pas de temps d'attente, tout va bien.
Oui, bon, il y a certains éléments, mais justement, je pense que c'est un bon exemple.
Vous êtes-vous inspiré de ça ou si vous avez... Oui. Parce que,
okay. En bonne partie, parce que, par exemple, au Jeffrey Hale, ils ont réduit les heures d'ouverture, notamment parce qu'ils voyaient que, ben, comme c'est des urgences mineures, il n'y a pas de gens qui viennent à 11h minuit, là. Okay. Et c'est ça aussi, c'est des urgences mineures. Donc, on a besoin d'avoir une attention médicale. On sait qu'on va pas attendre là, 48 heures, mais est-ce qu'on peut attendre 2-3 heures chez soi? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, si on se rend à l'urgence, vous savez comme moi, M. Arcand, on risque d'attendre pas mal plus longtemps dans des circonstances moins agréables.
OK. Parfait. Merci, M. Chassin, d'avoir été avec nous.
On espère bien que ça va vous convaincre quand vous allez le voir.
Ben, moi, pour être convaincu, il faut que je comprenne. Et sérieusement, là, puis je vous le dis en tout respect, je comprends rien dans votre affaire. Mais ça, j'imagine que vous savez là, que vous avez tout ça bien clair. Vous allez faire un appel d'offres, on va comprendre. Mais ça demeure flou un petit peu.
Ouais, ben c'est sûr que c'est ça. Quand on dit, ben c'est pas exactement... le modèle qu'on a à l'heure actuelle, hein, oui. On innove, on change les choses.
Okay.
C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à expliquer. Alors, pardonnez-moi, mais je vais essayer d'être meilleur la prochaine fois.
Okay.
Si on a une prochaine fois, parce que je comprends que vous allez partir bientôt.
Non. Puis je vais être vieux, mais essayer de pogner votre clinique un jour. Peut-être qu'ils vont ouvrir la porte. Exactement. Merci, Monsieur Chassin.
Merci, au revoir.
Au revoir. Youri Chassin est le député caquiste de Saint-Jérôme. C'est lui qui portait le dossier des mini-hôpitaux privés. Je reviens sur le rejet de l'entente de principe conclue entre Québec et la FIC. On sait que ça a été rejeté dans une proportion de 61% environ. Et il y a des endroits au Québec où le rejet était plus important, plus massif. On parlait hier de l'Est de Montréal. La Mauricie, c'est le cas également. Et j'en parle avec la présidente du syndicat, donc pour la Mauricie, Patricia Mayotte. Madame Mayotte, bonjour.
Bonjour, bon matin, M. Arcand.
D'abord, chez vous, ça a été rejeté dans quelle proportion?
72,5%.
OK. Et ce que je comprends, c'est que vous avez vécu depuis un an l'implantation de mesures là, qui n'ont pas été appréciées par vos membres là, concernant les déplacements, la mobilité du personnel.
Oui, tout à fait. Le 6 février 2023, en fait, la direction du CIUS en Mauricie-Centre-du-Québec annonçait une restructuration complète pour le personnel infirmier ici. Pour garder ça simple, là, ils donnaient un an pour fusionner plusieurs unités de soins ensemble.
Et c'est quoi l'impact sur le personnel?
Malheureusement, l'impact sur le personnel, c'était des départs hâtifs à la retraite, des démissions, des arrêts pour maladie, de l'anxiété et j'en parle.
OK, mais je veux juste comprendre exactement quand vous me parlez de mobilité. Donnez-moi un exemple d'une infirmière, d'un inhalothérapeute qui a été transféré ailleurs.
Oui, mais en fait, des exemples de fusion ici à Mauricie-Centre-du-Québec, c'est des fusions CHSLD avec des infirmières qui travaillent en scolaire, des infirmières en CLSC qui travaillent auprès de la jeune clientèle, vaccination, visite postnatale qui étaient fusionnées avec les centres naissance où les mamans accouchent, des infirmières cliniques externes qui devaient aller sur les unités de soins de médecine, etc.
Mais là, je veux juste comprendre une chose. Il manque de personnel partout. Pourquoi on prend du personnel à un endroit où probablement il en manque, puis on décide de les transférer à un autre endroit?
Bien, c'est là que toute la question se posait. Et ce qu'on entendait dire de la direction, c'est qu'on veut répartir la misère, ce qui n'a carrément pas été la bonne solution ici. Là. Tu sais, je vais vous dire que... Je vais vous donner un exemple là, qui est imagé, mais fort simple, et n'y voyez aucune prétention. Si une membre de votre famille doit subir une opération à cœur ouvert, préférez-vous un chirurgien cardiaque ou un coronaire? Pourtant, les deux ont fait leurs études en médecine. Par la suite, si ce patient-là est hospitalisé en cardiologie, préférez-vous une infirmière qui soit experte en cardiologie ou en maternité? Vous savez, la revendication qui est forte présentement avec le rejet de cette entente de principe-là, c'est l'expertise, l'expérience. Le patient est au cœur.
Oui, mais ça, Mme Mayotte, moi, le patient est au cœur, là, j'entends ça 12 fois par jour, puis des fois, j'ai des doutes sur la sincérité. Là. Je comprends que ça fait un beau discours écrit, là, mais dans les faits, c'est quand même un peu différent. Mais je veux revenir à la problématique de base. Quand le Conseil du Trésor nous dit c'est pas notre intention de faire ça, puis ça va se faire sur une base volontaire, puis les gens qu'on déplace vont avoir une formation que la FIC a peut-être, puis là, ils nous disent pas ça officiellement, mais disons le réflexe de prendre panique un peu trop vite. Vous répondez quoi à ça?
Mais premièrement, ça fait 14 mois, M. Arcand, qu'on le vit ici. J'ai vu des professionnels en soins pleurer, avoir peur de donner des soins qui ne sont pas sécuritaires. Il n'y a rien de volontaire là-dedans. Là. Quand on prend deux centres d'activité puis qu'on fusionne ça, par la suite, là, elles n'ont pas le choix d'aller effectuer le travail. Oui, ils donnent une certaine formation, mais une certaine formation parfois de 10 jours. 10 jours, en 10 jours, on peut pas voir toute l'expertise puis l'expérience se développer, et c'est impossible. Et il y en a des professionnels en soins qui ont demandé à leur gestionnaire des journées plus d'orientation, de formation. Ça a été refusé, M. Arcand.
Donc, si je comprends ce que vous me dites, ce que votre collègue de l'Est m'a dit hier, si ces clauses-là sont maintenues, si cette mobilité puis ce déplacement-là suite à des fusions de centres, par exemple, ben vous allez toujours dire non à l'entente. Là. Dire, il n'est pas question d'accepter ça.
Ben vous comprendrez que pour nous, ça doit du moins d'être vu avec le gouvernement pour que ça soit plus spécifique, plus encadré, parce que la mobilité personnelle, vous savez, là, je connais plusieurs infirmières qui font du 400-500 heures de temps supplémentaire. Elles travaillent de soir, de nuit, de fin de semaine. Je vous dis pas que c'est optimal comme condition, mais c'est pas ça qu'elle revendique. C'est la sécurité des soins. Donc, le gouvernement, j'espère qu'il a entendu le message fort ici au Québec et qu'il... Tu sais, vous savez, ce qui rend une infirmière là, heureuse, là, c'est qu'elle soit efficace, qu'elle soit avec son expertise, et là, elle va être fidèle à son employeur et elle va donner tout ce qu'elle peut et même encore plus.
Merci, Mme Mayotte, d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci à vous.
Merci, Patricia Mayotte, et la présidente pour la Mauricie, donc du syndicat de la FIC. En résumé, cette grogne, vous me l'avez exprimée beaucoup par vos courriels. J'ai tout compris ça. Et c'est un enjeu. Et des infirmières qui disent, si c'est pour être ça, on va partir à la retraite. Puis tout le monde pointe la Mauricie comme étant l'espèce de laboratoire où on a mené l'expérience. Le gouvernement aurait intérêt, à tout le moins aux tables, de rendre ça clair. La mobilité, c'est un principe qui est souhaitable dans certains cas, qu'un employeur puisse dire, j'ai un besoin urgent. On s'en est servi pendant la pandémie et beaucoup d'infirmières ont dit c'est correct pour une crise sanitaire, mais on pense pas que c'est la façon de gérer tout le temps. Je vous le dis, là, à Québec, on se montre très rassurant en disant, écoutez, pas ça, puis on s'énerve pour rien. Mais visiblement, dans le cas de la Mauricie, on s'est servi de ces dispositions-là. Donc, il y a un enjeu important et pas scientifique, mais disons que les courriels sont assez clairs. Si c'est pour être ça, m'aller faire ma job ailleurs. Donc, non seulement ça va être difficile d'attirer des gens, mais même de garder à l'intérieur du réseau des préposés, des infirmières, des inhalothérapeutes.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.